Bonjour à tous et à toutes, je suis Charlotte Guillot, je suis ingénieure pédagogique depuis une douzaine d'années et aujourd'hui je vais vous parler d'un déclic qui a fait évoluer ma posture de pédagogue. Ce n'est effectivement pas qu'un déclic, mais plutôt un cheminement sur du long terme qui a démarré au moment où on a diagnostiqué plusieurs maladies auto-immunes à ma mère, qui sans reconnaissance officielle de handicap, cela a commencé à bouleverser son quotidien personnel mais aussi professionnel, nécessitant une adaptation de poste pour aboutir à un changement professionnel total. À l'époque, je ne me rendais pas vraiment compte des efforts qu'elle a dû faire pour s'adapter. Moi, je démarrais mes études, on était en 2009, mais je me souviens que ça a été déjà un parcours du combattant pour elle pour un aménagement de poste. Elle travaillait dans les cuisines d'un établissement scolaire, elle n'avait plus le droit d'être au contact à l'eau chaude, à porter des charges. Et déjà, là, ça a été difficile pour elle à la fois d'adapter son poste. Je me souviens qu'on lui avait proposé des gants maxi pour recouvrir l'entièreté de son bras pour pas qu'elle puisse toucher l'eau chaude ou la ressentir. Et ça a été aussi difficile pour être accompagnée, en fait, pour que ça soit reconnu. Ce cheminement autour du handicap, il s'est poursuivi quelques années plus tard, au moment où des professionnels ont commencé à s'interroger sur mon neveu et sur le fait qu'il puisse être atteint d'un trouble du spectre autistique. Là aussi, ma sœur, elle est rentrée dans une démarche assez lourde pour qu'il soit diagnostiqué, et ça s'est traduit sur des rendez-vous sur plusieurs années avec des professionnels comme des orthoptistes, des orthophonistes, des psychomotriciennes, des pédopsies. Tout en parallèle de rentrer dans les dispositifs existants pour être accompagnée, ça s'est poursuivi avec la recherche de taxis médicalisés et encore aujourd'hui des après-midi au CESA, des rendez-vous avec des éducateurs spécialisés, en parallèle du renouvellement des démarches administratives auprès de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, pour obtenir une reconnaissance. Et c'est quelque chose d'assez fort, ce chemin sur plusieurs années, parce qu'en fait, on n'est pas préparé pour ça. Ça a été dur pour elle aussi de se battre pour qu'il soit scolarisé en milieu ordinaire parce que mon neveu est quelqu'un de très intelligent, avec une grande mémoire. Par contre, au niveau de la motricité, il y a encore pas mal de choses à développer. Ça a donc été pour moi un rouage supplémentaire en fait dans mon cheminement qui s'est poursuivi en fait dans ma précédente expérience professionnelle où là, dans mon poste de responsable pédagogique, on me propose d'être référente handicap. C'était pour moi l'occasion de toucher du doigt cette thématique qui, à savoir de mieux accompagner les personnes en situation de handicap qui cherchaient à se former dans l'organisme dans lequel je travaillais. Pour cela, j'ai suivi une formation de 3 jours dispensée par le CRFH de Bordeaux, donc le Centre Ressources Formation Handicap en Nouvelle-Aquitaine. Et là, j'ai été scotchée par la complexité du parcours à mener pour une personne en situation de handicap pour accéder à la formation. Parce qu'il y a beaucoup de structures, beaucoup d'instances qui communiquent entre elles, qui ont chacune un rôle spécifique. C'est très intéressant, mais c'est aussi très complexe. Heureusement que les formatrices qui nous ont dispensé cette formation ont été là pour comprendre l'enjeu de tous ces organismes, comprendre le rôle de chaque acteur. Et c'est là vraiment pour moi où le cheminement s'est terminé et que le déclic a opéré parce que, effectivement, moi, en tant qu'ingénieur pédage, je ne peux pas intervenir sur ces premières étapes de reconnaissance. Mais une fois qu'une personne en situation de handicap nous choisit pour se former, comment moi, en tant qu'ingénieur pédage, je peux lui faciliter l'accès à cette formation? Et c'est là où ma posture a donc évolué. J'ai beaucoup réfléchi, travaillé justement, non pas un protocole ni même un process, parce que je voulais pas rajouter une couche supplémentaire dans cette complexité, mais simplement en fait à un questionnement avec des échanges que je pouvais avoir avec la personne concernée pour mieux comprendre son besoin et mieux comprendre comment je peux y répondre. Et ça se traduit en fait par des questions toutes bêtes qui sont, mais pour vous, c'est quoi votre idéal pour pouvoir se former? C'est quoi votre idéal pour pouvoir apprendre? Et c'est au fur et à mesure de ces discussions et échanges que j'ai pu avoir avec des personnes concernées que je me suis rendu compte en fait que parfois c'est pas grand-chose. C'est une position dans la salle, c'est demander à un intervenant de parler plus fort, c'est de travailler des visuels pour qu'ils soient plus gros, c'est faire du feedback à l'oral et non pas par écrit. Et c'est vrai qu'au départ, je pouvais me faire une montagne d'une adaptation, mais je me suis rendu compte qu'il y a des choses toutes simples qui pouvaient être mises en place. Et ces choses toutes simples, on les a aussi vues lors de la formation avec le CRFH par des mises en situation. On nous a mis des casques où on n'entendait plus rien. C'est là où on a vu l'effort de l'intervenant pour parler plus fort, pour essayer de nous faire comprendre et entendre. Et c'est là où effectivement je me suis dit qu'il fallait faciliter les choses pour que l'expérience, elle soit la même pour tous, à savoir tout aussi engageante et passionnante, handicap ou pas handicap. Et cet accompagnement, ça passe aussi par une sensibilisation auprès des formateurs avec lesquels moi j'ai pu travailler. Je leur ai proposé une session sur le handicap pour leur expliquer comment eux pouvaient mettre en place aussi des petites choses dans leur cours, comment aussi observer, détecter si jamais une personne qui était en situation de handicap ne se manifestait pas auprès de nous par peur du regard des autres, parce que malheureusement, c'est des situations qui existent encore. Et c'est donc là où ma posture, elle a vraiment changé, parce que c'est quelque chose que désormais j'intègre dès les premiers échanges, que ça soit avec les individus lors des accompagnements que je peux faire ou avec des organismes de formation sur leur mission pédagogique. Effectivement, quand je suis à réfléchir sur un programme pédagogique ou un module de formation, c'est une composante essentielle désormais dans ma réflexion. C'est devenu un engagement du quotidien pour moi de pouvoir leur faciliter l'accès à la formation à travers ce questionnement tout simple, qui est juste de la communication et de la bienveillance, mais qui fait énormément derrière pour instaurer un climat de confiance. Alors, je sais bien que derrière toutes ces adaptations simples, il y a aussi parfois des parties de financement, notamment pour certains types de logiciels et matériels. Et c'est là aussi où la formation du CRFH, elle a été impactante parce que ça m'a permis de découvrir des acteurs de l'écosystème dont j'ignorais l'existence et qui peuvent nous accompagner et mettre à disposition ces outils-là pour faciliter l'accès à la formation. Donc ça n'a pas été un déclic immédiat, ça a été un cheminement assez long à travers l'observation de mes proches, mais c'est devenu désormais pour moi un élément essentiel à toute mission pédagogique que j'intègre à chaque fois, car effectivement, ça passe par nous, en fait, les acteurs de la pédagogie, les acteurs de la formation, d'avoir ce réflexe de questionnement et d'adaptation.